aussi, vous pourrez trouver en salle Perfect Days. Souvenez-vous, dans l'épisode 5 du Comptoir du cinéma, nous étions allés assister à la remise du prix Lumière au réalisateur allemand qui avait été enlevé au nez et à la barbe notre micro alors que nous allions lui demander quelque chose. Et encore aujourd'hui, je suis bien incapable de dire ce que j'allais poser comme question, mais sans aucun doute que ça aurait été passionnant et que tout ça nous a privé d'un grand moment de radio et de cinéma. Tentons donc de nous rattraper avec aujourd'hui un grand moment de radio et de cinéma en parlant des jours parfaits que filme Wim Wenders et qui sont ceux de Hirayama qui nettoie les toilettes de Tokyo et de Shibuya. Un toilette publique. Un homme attaché aux choses simples, à sa petite routine, qui parle le moins possible, mais qui n'en ressent pas moins une immense variété d'émotions qui passent par son regard, son sourire, ses rides qui se plient. Hirayama, interprété par un Yakusho Koji bien différent des personnages sombres qu'il a à plusieurs reprises incarnés chez Kurosawa Kyoshi, et si convaincant qu'il a emporté le prix d'interprétation masculine à Cannes alors qu'il y avait Benoît Magimel dans la liste, a donc ses bars, ses bains, ses plantes, son appareil photo, ses visages connus et pourtant inconnus. Et puis il y a ces toilettes ultra contemporaines et œuvres de designers à l'occasion des JO de Tokyo de 2020, qu'on le voit nettoyer tout au long de ce film où il ne se passe finalement pas grand-chose. C'est plutôt une mini-série d'épisodes qui aurait le même début et la même fin et qui serait mis bout à bout. Les personnages vont et viennent dans la vie de Hirayama, sa nièce qui fugue, son subalterne qui n'arrive pas à conclure, un sans-abri qui enlace un arbre. C'est d'une beauté sans nom et c'est un film où poindre une immense solitude mais qui n'est jamais ni pessimiste, ni déprimant, et pourrait emprunter son titre à l'un de mes films préférés, Les choses de la vie. J'espère sincèrement que vous avez aimé et que vous défendrez ce film autant qu'il le mérite. Et on commence avec Lucie Seul.
Oui, moi évidemment j'ai adoré. C'est un très beau film. J'ai beaucoup aimé, comme tu en parles, le traitement du quotidien, parce qu'en fait ça a réussi à nous captiver avec des actions relativement minimes. Et j'ai aussi beaucoup aimé la bande-son et le traitement de la musique dans le film en général. Voilà.
Merci. Nathan, ça faisait trois films que c'était un peu mitigé.
Ouais, et bah écoute, là ça va mieux quand même. C'est... Alors déjà, je voulais préciser que j'ai vu le film cet après-midi, je suis sorti du cinéma il y a vraiment 2 heures. Donc c'est très frais, mais... Mais ouais, et d'ailleurs, oui, j'avais plus de batterie, donc j'ai pris des notes pour la première fois de ma vie. Et voilà, c'est... Bon, oui. Vous le verrez pas à la radio, mais le résultat est vraiment pas fameux. Donc je vais essayer de déchiffrer ce que j'ai écrit, entre gros guillemets. Mais non, mais globalement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très beau. C'est très fort, je trouve, d'être aussi touchant et aussi juste, avec autant de simplicité, quoi. Je trouve que globalement, c'est un film où ouais, tout est très simple, mais où tout se goupille bien, en fait, où tout tombe à pic. Enfin, c'est vraiment un film en état de grâce, et comme tu le disais, je trouve que la musique symbolise très bien ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une bande originale de rêve, et qui colle parfaitement, mais tous les moments musicaux sont... T'as l'impression que la musique a été écrite pour la scène, alors que c'est à chaque fois des grandes chansons et tout. Bon, y a, je sais pas, peut-être 4 de mes chansons préférées dans la BO, enfin, vraiment, j'étais aux anges. Donc non, globalement, j'ai adoré. C'est très beau.
Merci beaucoup, Lucie Silambert.
Alors je pense que pour exprimer mon avis sur ce film, je dois d'abord parler de l'après-séance, puisque quand je suis sortie, j'étais dans un état un peu différent, dans un état particulier d'attention au monde, et donc là je pense que le film a réussi là où beaucoup échouent, parce qu'en sortant donc de cette salle du GC Astoria, je suis allée fatalement aux toilettes, et là j'ai regardé les toilettes, j'ai regardé les traces sur le miroir, les papiers par terre, le passage, enfin tout ça, la lumière, et il y avait quelque chose de beau, et après je suis sortie dans la rue, il y avait de la pluie, il y avait un miroitement sur le pavé, il y avait des gens qui étaient en train de laver les boutiques après la clôture, le Subway notamment. Et je sais pas, en fait, j'étais vraiment dans un état où tout participait à ma contemplation et où en fait, il y avait quelque chose de beau. Et j'ai emporté avec moi quelque chose du film. Et je pense que ça a réussi parce que le poncif esthétique de la transfiguration du banal, qui est un thème de l'historien de l'art Schusterman, qui voit un baril de rouille sur une plage et qui dit « Waouh, mais c'est incroyable, ma vision du monde a changé », il y a un peu de ça. Et en fait, je trouve que c'est une des grandes réussites du film, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus paroxystique en fait, dans la banalité que les toilettes ? Et arriver à utiliser cet élément du réel très prosaïque et difficile à sublimer sans tomber dans une espèce d'ironie acerbe du réel, là, c'était très fort. Et ce film a réussi à me toucher sans rester un tableau, à m'attraper sans être distancé et à me donner goût à cette existence. Bien mieux, par exemple, qu'on avait fait une chronique mi-dépressive, mi-poétique de la vie simple, à savoir les feuilles mortes. Moi, j'ai été beaucoup plus touchée par ce film et je l'ai trouvé beaucoup plus juste. Et voilà, c'était un assez grand plaisir de voir Tokyo sous cet œil de Wim Wenders.
Oui, je suis bien d'accord, vraiment, bah, sur tout ce que tu viens de dire et sur l'effet aussi dans lequel j'étais à la sortie du film. J'avais vraiment pas envie de partir, en fait, de partir de ce film. C'est magnifique de bout en bout, c'est-à-dire que effectivement l'attention portée aux détails fait que Wim Wenders fait un meilleur Ponge que Ponge. Enfin, je déteste Ponge d'une façon générale, et là au contraire c'est vraiment un film sur l'homme de tous les jours qui est finalement notre contemporain universel. Les scènes dans son quotidien en général sont vraiment très belles. Les scènes au bain sont muettes mais disent beaucoup. C'est effectivement, tu le disais, un film sur le quotidien tokyoïte que Wenders fait découvrir au spectateur, qui est splendide. On a vraiment l'impression d'être là avec lui, et c'est un film qui filme merveilleusement bien la ville. Un monde urbain qui pourrait être terrifiant ou angoissant, mais qui ne l'est absolument pas, que le personnage s'est approprié et qu'en 2 heures de film, le spectateur s'approprie avec lui.
Oui, et par rapport à cette idée de contemplation et d'en sortir dans un état différent, j'ai trouvé que le traitement du silence participait beaucoup à être dans un état différent déjà pendant le film, parce qu'il y a des silences qui veulent dire beaucoup, qui sont très bavards. Et alors là, évidemment, les silences sont utilisés pour nous faire réfléchir sur certaines choses, mais pas seulement, c'est aussi vraiment utilisé comme des silences et pour nous faire... nous arrêter un moment et ralentir et vraiment prendre le temps de contempler et d'observer, comme le fait le personnage principal, et qui est d'ailleurs une contemplation qui est d'ailleurs favorisée par ces deux hobbies que sont le jardinage et la photo, et qui justement nous pousse à regarder différemment le monde qui nous entoure en s'arrêtant. Voilà.
Moi je rejoins ce que tu disais aussi, Louis, sur la façon de filmer la ville. C'est dès le premier plan avec le titre du film. Je trouve qu'il y a un côté un peu Manhattan de Woody Allen, quoi, dans ce plan large de Tokyo. Et globalement, c'est une vraie déclaration d'amour à Tokyo, et qui est hyper juste, je trouve. Un peu au même titre que Et la fête continue serait une déclaration d'amour de Guédi Guillon à Marseille, par exemple. Toute proportion gardée.
S'il te plaît.
Mais non, j'ai trouvé ça hyper beau. Et puis ça participe à la structure aussi itérative du film, quoi. Il y a énormément de choses qui reviennent aller dans cette idée de quotidien. Il y a tous ces rituels. Et aussi les différents. Un truc que j'ai trouvé génial, c'est ces moments de flashback en noir et blanc pour résumer la journée au moment où il se couche, qui sont hyper beaux, au ralenti, et où on revoit des images mais sous d'autres angles. Enfin, j'ai trouvé ça hyper juste pour, comme tu le disais, nous donner le point de vue du personnage principal. J'ai trouvé ça très fort.
Oui, ouais, à propos de cette notion de quotidien, je trouve qu'il arrive bien à épouser donc la subjectivité de son personnage avec ce que tu dis, tous ces éléments graphiques, le noir et blanc, etc. Et ce côté, regarder vraiment ce qu'il y a sous vos yeux, regarder les arbres, regarder le vent, etc. Et je veux dire, en regardant le film, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait que là, c'est réussi ? Et par exemple, chez Hong Sang-soo, dans Juste sous vos yeux, qui avait un peu le même thème, ça marchait pas trop, mais en fait, il y a vraiment cette notion-là de subjectivité, de regard qui est beaucoup plus appuyé, puisqu'il y a une réelle pensée de la mise en scène pour aller dans cette direction. Et puis surtout, ce qui est assez plaisant dans le film, je trouve, pour un film qui aborde quand même l'histoire d'un homme qui nettoie des toilettes, il n'y a pas de pathos pâteux, vraiment c'est quelque chose de... tout est assez nuancé. Et je veux dire, quand on pense un peu à l'histoire de cette figure dans le cinéma, par exemple, il y a un film comme Le Dernier des Hommes de Murnau qui vraiment va utiliser cette figure pour faire une satire sociale en montrant un homme que tout le monde crible de honte parce qu'il nettoie les toilettes, etc. Et là, c'est pas du tout cette notion-là d'intouchable. On la sent un peu avec la sœur qui a un regard un peu méprisant, avec à un moment une dame qui nettoie les mains de son enfant. Mais je veux dire, c'est pas le sujet du film. Et le sujet, c'est plus cet homme un peu philosophe, un peu marginal, qui vit sa petite vie et qui a sa façon de la vivre. Et donc là-dessus, je trouvais que le film était très nuancé, très, très fin, et ça rendait ça beaucoup plus intéressant et touchant.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis ça, c'est ce que permet, enfin je veux dire, c'est l'acteur principal qui le porte aussi, je trouve, qui est vraiment, vraiment fabuleux, parce que je trouve qu'il a le naturel genre d'un acteur non professionnel, et en même temps, on voit à quel point professionnel il l'est, tout passe dans son regard, qu'il soit filmé dans le rétroviseur intérieur de sa voiture, ou bien dans ses scènes répétées, Dieu levé vers le ciel tous les matins. Et de fait, en fait, c'est tout à fait important dans un film où c'est sa vision qui prime, et effectivement tout va passer dans son regard. Tu parlais du silence, Lucie, tout à l'heure. Effectivement, c'est vraiment le silence pour le silence, et aussi celui de la parole rare, auquel par exemple va s'opposer le verbe assez vain de son subalterne, dont le nom m'échappe. Mais effectivement, ça montre aussi que les vrais sentiments se passent de parole. Ça se voit dans son sourire quand on entend la chanson de Lou Reed, vraiment Perfect Days, c'est-à-dire vraiment qu'il y a un rayon de soleil qui lui arrive sur le visage, et c'est vraiment ce moment où on se sent bien et on veut accompagner ça d'une musique précise. Je te rejoins aussi, Nathan, sur la bande-son, c'est fabuleux. On veut vraiment accompagner un moment où on est bien d'une musique précise, et on sait que c'est comme ça que ça va s'emmagasiner dans nos souvenirs.
Oui, et Lucie, tu parlais de la finesse du film, et je te rejoins là-dessus, parce que donc on a en effet des scènes où on ressent le mépris que peuvent ressentir d'autres Japonais envers le personnage principal. Mais nous, on est plus dans on a un regard nouveau, et qui passe beaucoup aussi par le personnage de la nièce, qui est comme une sorte de d'incarnation des spectatrices dans le film, parce qu'elle aussi, elle porte un regard nouveau et bienveillant et curieux sur cet oncle qu'elle aime et qu'on se surprend nous aussi à aimer, parce qu'en fait, il est gentil, il est généreux, il est trop mignon, quoi. Et du coup, tout comme le film en général, la nièce incarne, je trouve, ce regard vraiment différent, regard aussi un peu... jeune, du coup, de quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans la vie et qui n'appartient pas encore à ces mondes dont parlent sa propre mère et son oncle.
Ouais, par rapport à ça, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est hyper juste et subtil, tellement subtil qu'en fait, moi, jusqu'à la scène où il retrouve sa sœur et où elle lui dit « c'est vrai que tu nettoies les toilettes », jusqu'à ce moment-là, moi, j'avais même pas en fait pris conscience d'à quel point effectivement, c'est vrai qu'il nettoie les toilettes, quoi, finalement. Et je trouve ça hyper symptomatique, enfin très représentatif de la justesse du film. On voit jamais vraiment la lourdeur et la pénibilité de son travail ailleurs que dans le mépris de sa sœur à ce moment-là. Et effectivement, dans quelques scénettes, il y a aussi le moment où il y a un type bourré qui shoot dans son matériel. Mais en fait. Ces moments-là sont pas c'est pas du tout lourd, parce que lui-même, ça a pas l'air de plus l'atteindre que ça, parce qu'il est dans cette béatitude qui est hyper belle. Et sur ce point-là, j'ai trouvé ça très fort et très subtil par rapport à, je sais pas, enfin, je pense qu'on n'aurait pas eu le même traitement dans Une année difficile de Toei Danonakash, par exemple, au hasard. Et concernant la performance de l'acteur principal, c'est vrai que moi, à la base, j'étais un peu sceptique, parce que j'ai tendance à être assez déçu par les prix d'interprétation décernés à Cannes, en tout cas dernièrement. Et finalement, là, c'est amplement mérité, parce que vraiment, il a peut-être 3 répliques à tout casser, et il a une présence et une humanité complètement folle. Et ne serait-ce que pour le dernier plan, je pense que c'est mérité, parce que vraiment, tu disais qu'on n'a pas envie de partir à la fin du film, mais cette fin est génialissime, quoi. Ouais. C'est vraiment, honnêtement, moi j'avais retenu mes larmes pendant tout le film, mais alors à ce moment-là, j'avoue que j'ai craqué.
Oui, non, c'est vraiment, enfin, je veux dire, ce dernier plan, pour moi, c'est un des plus beaux plans de l'année.
Ouais, complètement.
Et là, je peux le dire parce qu'elle est finie, quasiment. C'est vraiment une explosion de sentiments et d'émotions sur fond, en plus, de l'éternellement magique, I'm Feeling Good.
Ouais, c'est ça, il y a tout, musique, lumière, jeu.
Il rit, il pleure face à la caméra, et franchement, tout passe. C'est-à-dire que les larmes, des regrets, de la solitude, du désespoir, en même temps, le rire le plus beau, je veux dire, franchement, c'est celui de l'émerveillement, c'est celui du monde que... Vim et son regard ont réenchanté pendant 2 heures de film. C'est aussi celui de l'espoir, de se lever de soleil. C'est vraiment bouleversant pour le coup.
Déjà, rien que dans le titre Feeling Good, en fait. Enfin, tout ce qui passe dans dire ça, dans ressentir ça, et tout le panel d'émotions de tout ce qu'il a vécu qui s'accumule à ce moment-là. Enfin, vraiment, c'est aussi pour dire que... Enfin, là, ce que tu dis sur l'espèce de réalisation, tiens, oui, c'est un type qui nettoie les toilettes, y a un peu beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça par accumulation. Et l'émotion qu'il y a là, vraiment, c'est tout ce que le film a anticipé et a créé. Et on se dit, enfin, quel est même son rapport, lui, à cette vie qu'il mène ? Est-ce qu'il en est vraiment satisfait ? Enfin, c'est plein de choses qui sont quand même montrées sans parole, et ça en fait une force très forte. Puis il y a aussi, j'aimerais juste mentionner cette scène avec, je ne sais pas quoi dire pour ne pas trop spoiler, mais... un homme sur les quais. Enfin, je veux dire, c'est une espèce d'apax comme ça, de rencontre qui en dit beaucoup, de deux hommes un peu esselés. Et chacun a des présuppositions sur l'autre, mais je veux dire, je trouvais ça très, enfin voilà, très beau que ce soit un peu comme un Cléo de 5 à 7 avec des rencontres, des itinérances et en fait une espèce d'évolution qui se fait comme ça par errance. Ouais, c'était une jolie scène.
Ouais, complètement. Et puis ça va avec avec l'intelligence du film général en fait aussi. C'est-à-dire qu'il est subtil, il est fin, il arrive à n'être ni niais dans sa philosophie du carpe diem. En mode, je veux dire, c'est pas un tatouage en bas du dos, c'est jamais théorisé. À tout moment, il y a genre ce moment avec sa nièce quand il dit la prochaine fois, c'est la prochaine fois. Maintenant, c'est maintenant. Mais c'est une tautologie qui est assez belle en fait. Et puis le film est réaliste, c'est-à-dire qu'on a l'impression, enfin, il s'arrête pas juste à la réplique de la tenancière du restaurant qui dit pourquoi les choses doivent-elles changer. Puisque plus tard dans le film, à la fin, il y a cette réplique qui lui répond « Si rien ne changeait, ce serait absurde ». C'est-à-dire que, et là, deuxième autre point de l'intelligence du film, c'est pas du tout un propos de boomer aigri, j'ai trouvé. Il y a bien sûr un décalage générationnel qui est signifié par les technologies un peu surannées, un peu inactuelles qu'utilise Hirayama, sa cassette, son appareil photo qui rappelle d'ailleurs effectivement la technologie un peu surannée de Drive My Car par exemple, mais donc ce décalage se sent aussi dans le film même, dans le bref passage du format 4 tiers au format du téléphone de sa nièce, mais jamais il est à juger les personnages parce qu'ils seraient plus jeunes uniquement pour ça, au contraire même, il y a l'impression d'un espoir placé là-dedans qui est assez réconfortant.
Ouais, bah moi je voulais juste dire que Lucie, je suis complètement d'accord quand tu dis que ça fonctionne par accumulation, quoi. C'est vrai que c'est le genre de film où on pourrait avoir l'impression qu'il se passe rien, et de fait il se passe rien, mais en fait ça fait que enfler, et finalement ce moment où je disais que j'avais soudainement pris conscience de finalement sa condition et sa profession, etc. Au moment où, enfin, Wim Wenders c'est quand même hyper intelligent, enfin je veux dire, au moment où moi j'ai eu cette réalisation là, deux secondes plus tard il y a le seul plan du film où on le voit, enfin alors non pas le seul du coup, mais le premier en tout cas, où on le voit ayant l'air vraiment sincèrement abattu, où il pleure, et c'est, enfin du coup d'un coup ça change complètement le regard qu'on porte sur le film et sur son personnage, et j'ai trouvé ça hyper juste. Il y a aussi un côté, enfin, du coup, ça raconte aussi quelque chose sur la vieillesse, parce que c'est aussi un autre thème sous-jacent du film. Et sur cette idée d'accumulation aussi, il y a plein de petits motifs comme ça, de leitmotifs qui, par leur itération, finissent par prendre une ampleur assez folle. Par exemple, les différents plans sur ce SDF dans la rue qui à chaque fois est observé par le personnage principal, qui est le seul qui semble le voir, enfin qui semble être le seul à le voir, et à la fin ils ont un échange de regards et de gestes, et ça conclut vraiment de manière très belle, je trouve, ce motif là et à l'image de tous les autres du film. Et il y a aussi, oui, tu disais la scène avec l'homme sur les quais. Même juste avant ça, il y a la scène où il le voit avec son ex-femme dans un bar. Et ce plan-là, qui est hyper simple, et j'ai trouvé bouleversant, quoi. Ils se disent rien, ils sont juste dans les bras l'un de l'autre. Mais, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, finalement, très simplement, le film tombe bien et fait tout bien. C'est que c'est un plan que j'ai trouvé extrêmement fort et qui m'a vraiment énormément touché sur le moment. Alors même qu'il est d'une simplicité assez déconcertante, quoi, à l'image de tout ce qui émeut à ce point le personnage principal du film, finalement.
Concernant ce que tu disais sur le SDF, je trouve que en fait le film il pose plein d'amorces de ce qui pourrait être des péripéties et d'histoires, mais qui sont évoquées mais jamais développées. Enfin, par exemple, ce SDF, tous ces jeux de regard, ça se conclut juste avec un moment il se salue. La scène avec l'homme sur le pont ou avec la tenancière du restaurant, on ne sait pas s'il va se passer quelque chose. La scène avec sa sœur, alors d'ailleurs scène qui est très émouvante, mais on ne sait pas s'ils vont se reparler après, etc. Et en fait, les intrigues ne sont jamais bouclées. Et c'est aussi quelque chose qui est très touchant, parce qu'on est encore plus pris dans le quotidien de cet homme, puisqu'en fait, on ne connaîtra pas la suite. Voilà, c'est ça son présent, et c'est ce que tu disais, Louis, avec les tautologies tout à l'heure. En fait, lui, il est vraiment ancré dans le présent. C'est quelque chose qui participe, j'ai trouvé, à nous faire apprécier son quotidien et non les événements qui pourraient le bousculer.
Mmh, Je rejoins entièrement tout ce qui a été dit. Je trouve qu'on parlait de la musique, mais aussi sur le travail du son. C'est un film qui est très très impressionnant parce qu'il est vraiment sur l'écoute. On a dit que vraiment il s'exprimait que quand c'était vraiment nécessaire. Mais c'est aussi donc ce qui amène après le personnage, le film et le spectateur avec eux à avoir une attention de tous les instants portés sur les micro-sons. Il est réveillé par la balayeuse dans la rue qui balaye les feuilles mortes et finalement c'est effectivement cette vie véritablement minuscule et pourtant si immense où chaque son dit effectivement quelque chose et est choisi avec une immense minutie. Mais chaque son donc oui ça marche évidemment avec les chansons, et je voulais juste revenir d'ailleurs en parlant de chansons sur la scène au restaurant qui est vraiment magique, je trouve vraiment merveilleusement touchante à la fois dans le récit et puis pour hors du film. Puisque le personnage donc, de la tenancière de Mama, comme elle est créditée au générique, elle charrie toutes ses incarnations de tenancière venues avant elle d'un cinéma japonais, et ça montre Mais ça montre une immense culture de Wim Wenders pour ce cinéma-là, puisque la reprise qu'elle fait, venue de nulle part en quelque sorte, The House of the Rising Sun en japonais, change complètement aussi la chanson de sens, puisque c'est une femme qui la chante et ça devient une femme qui parle d'un bordel où elle s'est retrouvée. Et donc qui rappelle d'ailleurs aussi la fin d'un film de Fukasaku. Et en fait cette scène montre aussi une très très belle scène d'échange des cultures sans exotisme, mais qui nous fait découvrir ce que tu disais Lucie au tout début, cette culture japonaise et qui est vraiment bouleversante.
Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, et tout à l'heure tu parlais de la balayette et du son, etc. Je trouve que cette scène, elle incarne aussi toute la subtilité du film concernant la marginalisation possible de cet homme qui, en fait, il est présenté comme marginal parce que, dans l'aspect où le fait qu'il se lève aux aurores, il travaille alors que tout le monde dort, il n'a pas de femme, ou d'ailleurs, son subalterne lui fait la remarque à un moment. Il occupe un métier qui est très solitaire, finalement. Et pourtant, il est aussi très connecté, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il est connecté au monde qui l'entoure parce que son réveil, c'est cette personne qui passe le balai. Il mange tous les soirs dans les restaurants comme les Japonais après le travail. Il a cette petite complicité avec la tenancière du bar, etc. Il salue ce SDF. Donc, il y a vraiment ce jeu d'une marginalité sur le fil où on ne sait pas vraiment... c'est quelque chose qu'il choisit et toute cette solitude qui aurait pu faire l'objet d'un pathos, comme on disait tout à l'heure, ne le fait pas du tout. Et au contraire, on apprécie juste cette solitude pour ce qu'elle est.
En fait, c'est vraiment super juste ce que tu dis. Enfin, ce qui peut aller dans ce sens-là, c'est le travail sur la lumière. Toutes les lumières sont vraiment magnifiques, puisqu'on a un travail sur la photographie à la fois du film, puisqu'elle est très belle, et sur la photo dans le film, avec ces séquences sonoriques dont Nathan, tu parlais à la toute fin, qui d'ailleurs, en fait, dans un sens, peuvent presque être inquiétante dans la mesure où c'est sa journée qui s'imprime dans sa mémoire comme par des négatifs photographiques un petit peu avec ses zooms sur des petits détails et c'est des séquences qui du coup j'ai vu au générique parce qu'évidemment je suis resté jusqu'au bout ne voulant pas partir, sont filmés par l'épouse de Wim Wenders, Donata Wenders, et qui montre effectivement qu'il fait attention à absolument tout et qu'il est plus que jamais ancré dans le monde, quoi. Et ça va dans le sens de ce film à la fois très très contemplatif, et effectivement ça peut être pas apprécié par tout le monde, je veux dire la dame à côté de moi elle dormait à point fermé dans le cinéma, mais en même temps ça reste effectivement hyper contemporain. Est-ce que la libraire elle dit à un moment à Hirayama de Patricia Highsmith, ça pourrait être dit de Perfect Days, elle dit elle utilise les mêmes mots que nous mais son rendu est différent, et je trouve ça à nouveau pas du tout, enfin je veux dire ça peut être lu comme une mise en abyme du film, mais sans que ce soit amené avec de très gros sabots. Et ben voilà, c'était Perfect Days de Wim Wenders, accord parfait pour le comptoir du cinéma, c'est toujours en salle, et allez-y pour la petite bulle de bonheur que ça représentera dans la grisaille ambiante, vraiment, c'est merveilleux. Vos critiques, évidemment, vous donneront leurs conseils. Et on commence avec Lucie. Sol.
Perfect Days, personnellement, ça m'a beaucoup fait penser aux bandes dessinées du japonais Jiro Taniguchi et notamment à L'Homme qui marche, qui est paru en 92. Et en effet, l'auteur s'intéresse beaucoup à la personne humaine en soi et ici, à la contemplation surtout, parce que dans L'Homme qui marche, tout tourne autour des promenades d'un homme dans son quartier alors que le reste des gens travaillent. Et outre cet éloge de la contemplation, c'est aussi un vrai plaisir d'en apprendre davantage sur le Japon et la culture japonaise à travers ce livre, comme le fait aussi Wim Wenders qui filme Tokyo de l'intérieur, ses temples, ses rues et ses restaurants. Je pourrais vraiment parler longtemps de L'Homme qui marche, mais ce qu'il y a à dire, c'est que le livre écarte tout ce qui pourrait constituer des péripéties ou des actions traditionnelles pour se concentrer exclusivement sur la flânerie, l'attente et le temps long. Et comme dans Perfect Days, il y a peu de texte, l'appréciation de l'œuvre se fait à travers les images et le silence. Et d'ailleurs, c'est aussi très intéressant de voir quelque chose qui s'intéresse non pas à l'excès de productivité comme on y est poussé, mais d'accepter de lâcher prise. Donc voilà.
Merci beaucoup. Le conseil de Thomas.
Alors moi, je pars du côté de l'Italie avec La Chimera d'Alice Rohrwacher, qui vient de ce qui est sorti et qui entame sa deuxième semaine d'exploitation. Je trouve que c'est un magnifique film qui parle des tombaroli. Si vous ne savez pas ce que ce sont les tombaroli, ce sont ces pilleurs de tombes étrusques, voilà, on ne va pas écorcher les noms. Ces pilleurs de tombes étrusques qui pillent et qui ensuite essayent de revendre les œuvres d'art trouvées. Donc c'est fait par des moyens plus ou moins illégaux, surtout illégaux, et qui fait référence à un fait divers qui était arrivé au début du... autour de 2009. Mais avec Alice Rohrwacher, c'est pas forcément la dimension fait divers ou la dimension documentaire qui l'intéresse, c'est vraiment une véritable réflexion sur l'œuvre d'art et comment est-ce qu'on la trouve, comment est-ce qu'elle est trouvée, comment est-ce qu'elle est revendue, et aussi suivre ces personnages un peu bizarres, notamment le personnage principal qui trouve les tombes d'Étrusques grâce à des moyens un peu très surnaturels. On se croirait chez les Castors Junior un peu avec un petit bâton qui tout d'un coup indique où est-ce qu'il faut creuser. Voilà, pour un peu de surnaturel et un peu de bizarrerie, je trouve que c'est un très beau film où pour son quatrième long métrage, Alice Rohrwacher surprend énormément.
Merci beaucoup, le conseil de Nathan.
Oui, alors moi aussi je voulais conseiller un film auquel m'a fait penser Perfect Days, et donc c'est Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi qui est sorti en 2021. Donc Drive My Car ou Conduis mon char au Québec. c'est réel, hein, c'est qui est donc adapté d'une nouvelle de Murakami et qui raconte l'histoire d'un acteur et metteur en scène qui, 2 ans après avoir perdu sa femme, décide de se remettre à la mise en scène en s'attaquant à Oncle Vania. Une de ses passions dans la vie, c'est d'être dans sa voiture en écoutant des cassettes du texte de Vania pour qu'il puisse le mémoriser. Or, pour des questions d'assurance, il doit laisser le volant à une chauffeuse. Et le film, donc, en plus de livrer une réflexion sur le théâtre et de représenter Oncle Vania, qui est, c'est toujours bon de le rappeler, la meilleure pièce de tous les temps, en plus de cela, donc, dresse le portrait de la relation entre ces deux personnages. Alors, c'est hyper plombant, il y a du deuil partout, lui a perdu sa femme, elle a perdu sa mère. La mise en scène, évidemment, se passe à Hiroshima, donc vraiment, c'est terrible, mais c'est quand même un film absolument magnifique. C'est quasiment 3 heures de pur bonheur, et voilà, je vous le conseille très fortement.
Merci beaucoup, et le conseil de Lucie Lambert.
Alors, on se refait pas, moi je suis sponsorisée, donc aujourd'hui je vous parle de la nouvelle projection de Champ Libre, la semaine prochaine, le 19 décembre à 20h, qui sera donc The Shop Around the Corner de Hans Lubitsch, qui est une super comédie romantique entre amour et haine, avec une relation épistolaire de 2 employés de magasins à Bucarest qui ne s'entendent pas dans la vraie vie. Et si vous avez vu You've Got a Mail avec Meg Ryan et Tom Hanks, voilà, c'est un remake de ça, donc c'est pas un film de Noël, mais presque. Donc allez le voir et soutenez Jean-Louis. <Libre. rire> Et sinon, si vous cherchez une idée de cadeau pour Noël, je vous conseille d'offrir une carte cadeau de la Cinéthèque et de proposer une liste de films personnalisée à une personne. Et voilà, moi je fais ça, mais c'est sympa. Je suis sponsorisée aussi, j'ai envie de faire mon stage chez eux.
Bien compréhensible. Enfin, mon conseil à moi, outre aller mille fois dans le sens de tous ceux qui ont été dit juste avant, c'est un conseil qui est disponible en VOD et c'est de prolonger votre découverte du cinéma japonais contemplatif avec Dolls de l'immense Kitano Takeshi, surtout connu pour ses films de Yakuza ultra violents, mais rien de cela ici. C'est une longue promenade inspirée de pièces du théâtre Bunraku autour de l'amour. Film en trois histoires, toutes néanmoins reliées par un fil conducteur, littéralement. Il traite de l'amour et de la mort dans une vision à la fois nihiliste et réconfortante, je vous assure, qui m'a bouleversé cet été et dont je ne me suis toujours pas remis aujourd'hui, 11 décembre. Il s'agit donc, pour la première histoire, d'un couple heureux mais pressé vers un destin tragique par les choix faits pour eux par leurs parents, d'un chef yakuza qui revient dans le parc où, jeune ouvrier, il avait l'habitude de se rendre avec sa petite amie avant de la laisser pour embrasser le milieu du crime, et de la sollicitude d'une jeune idole au visage recouvert de bandages après un accident et qui passe son temps au bord de la mère, comme toujours chez Kitano. Elle n'a néanmoins pas perdu tous ses fans et l'un d'eux est prêt à tout pour le lui prouver. Récit décousu au fil des saisons, expérience de l'estrangement et du décentrement, Dolls est un film qui se mérite, certes, mais qui rayonne d'une force encore intacte, 20 ans tout juste après sa sortie, emmené par la splendide musique de Joe Hisaishi. Tous ces magnifiques conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les cinq, Eva, Thomas, Lucie et Nathan pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année, comme d'habitude, directement disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Vive le cinéma, vive le Comptoir du Cinéma et vive Transistor.